Bonjour tout le monde, Josée Durocher pour Humanoïdes, le podcast. Cet épisode vous est généreusement présenté par H2H Stratégie. Le sujet du jour, les meurtres et disparitions irrésolues au Québec. Un sujet qui va vous faire parler beaucoup, beaucoup après le podcast. C'est un sujet délicat, il va sans dire, mais on va le traiter avec beaucoup de délicatesse justement et d'empathie. Humanoïdes, ça commence maintenant. Luc, Christian, bonjour, comment allez-vous?
Allô?
Ça va bien,
Ça
ça va bien.
va très bien. Toi aussi?
Oui. Un petit
Toi-même?
peu fébrile, je dois dire, parce que le sujet du jour m'interpelle beaucoup pour des raisons personnelles, mais je suis certaine qu'à nous quatre, ça va bien aller avec l'invité.
C'est certain que ça va bien aller.
Avec quelle phrase ou mot arrivez-vous aujourd'hui qui vous inspire le plus, Luc?
Écoute, moi j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui, puis c'est l'esprit même de notre podcast. L'esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne mieux quand il est ouvert. C'est un dénommé Thomas Dewar, qui est un distillateur écossais qui avait dit ça. Il est décédé en 1930, ça fait que ça date.
Super. De mon côté, la phrase qui m'inspire, c'est une phrase que j'ai vue dernièrement. Je l'ai gardé pour ce soir. La solitude n'est pas une faiblesse, mais une renaissance. En fait, c'est moi, je suis célibataire, j'ai une garde partagée, j'ai donc beaucoup de moments seuls. Puis j'ai de l'occasion, en ayant la solitude comme ça, de faire une introspection, de réfléchir à moi-même, de regarder les choses du passé, pour mieux préparer l'avenir. Donc, pour moi, la solitude, ça m'aide à continuer à avancer.
C'est inspirant, c'est vrai. Vous avez tous
Alors,
les deux
voilà.
des mots inspirants. Moi, ce qui m'inspire ce mois-ci, parce qu'on arrive toujours avec une petite phrase comme ça, tirée de nos médias sociaux ou des internets, hein, qu'on fait comme on peut, ou des lectures qu'on a faites, c'est la phrase. Qu'est-ce qui nous tue pas nous rend plus fort? Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et ça ne m'inspire pas comme ça inspire la plupart des gens, c'est-à-dire que je ne crois pas que les épreuves nous rendent plus fort. Je pense que les épreuves rendent l'être humain plus lourd, avec un bagage plus lourd. Mais je crois par contre qu'on découvre notre force à travers les épreuves. Donc, c'est un cadeau, l'épreuve qu'on découvre.
Effectivement.
Avec la force qui nous habite.
Effectivement, c'est une façon différente de voir cette phrase-là. On la fait voir vraiment sous un autre sens, un autre angle. Oui.
Absolument. Luc, ton micro est fermé. Je voulais juste le faire remarquer. Ah.
Bon, voilà.
Bon. À toi la parole, mon Luc. Donc,
C'est à mon tour. Donc, notre invité cette semaine, c'est Stéphane Luce, qui est le président, fondateur et enquêteur de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, le MDIC. Christian, je te laisse nous faire peut-être un petit topo sur l'organisme.
Oui, alors bienvenue Stéphane.
Bonjour
Merci
Stéphane.
beaucoup. Bonjour.
Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Je pense que tu étais vraiment la personne appropriée pour nous ce soir parce que on ne se le cachera pas, tu as une histoire quand même particulière. Ta mère a été assassinée une mort vraiment violente au début d'avril 81. Suite à ça, suite à plusieurs démarches, à une enquête et tout ça, tu as décidé de t'impliquer en fondant ton organisme, Meurtre et disparition irrésolue du Québec, je pense, parce que je ne sais pas si c'est parce que tu avais des demandes, on va te laisser tantôt en parler, mais avant de se lancer dans le sujet, dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton enfance, de ce qui s'est passé là, pour toi là, avant 1981, là, ta famille, d'où tu viens, ta relation avec ta mère et tout ça.
Ben, ça va me faire plaisir de vous expliquer ça. C'est d'ailleurs la première fois qu'on me pose la question. Ça va être intéressant de voir ce que je vais sortir de mon passé. En fait, je suis issu de parents qui se sont rencontrés au Nouveau-Brunswick. Mon père est natif de Neguac au Nouveau-Brunswick. Ma mère est native de Montréal. Ma mère travaillait chez Bell Canada en 1964 quand une amie lui a demandé « Hey, je m'en vais à Neguac, là, puis je suis seul, c'est plat, tout seul, puis j'aimerais ça que tu viennes avec moi, ça te tente-tu, t'as-tu déjà visité le Nouveau-Brunswick? » Elle dit « Non, jamais été là, je veux y aller. » Fait qu'ils sont allés. Puis elle a rencontré mon père sur le parquet de l'église et puis Donc, je suis né à Neguac en 1967. J'ai une sœur handicapée intellectuelle qui est née en 1969 aussi à Neguac. En 1970, on est déménagé sur la rue Sainte-Hélène à Longueuil. Donc, gros changement démographique pour Stéphane Russe qui a un accent qui ne se fait pas comprendre par ses nouveaux amis québécois qui disent « Hein? Qu'est-ce que tu dis? » Parce que j'avais un pas pire accent, mais je pouvais comprendre les deux accents. Ma mère était québécoise, mon père acadien. Donc, pour moi, je parlais acadien, je venais de là, mais j'ai changé assez rapidement mon accent là, pour m'adapter et me faire comprendre. Donc, j'ai grandi dans la magnifique ville de Longueuil. Je dis ça avec un peu de sarcasme. C'est pas une ville qui me laisse de bons souvenirs, tendres souvenirs. J'ai des souvenirs, j'en ai des bons souvenirs, mais le dernier souvenir de ma jeunesse, peut-être avec ma mère, a comme complètement détruit la beauté de la ville là, en ce qui me concerne. Fait que c'est sûr, j'ai toujours eu de la difficulté à aimer cette ville-là. Elle me rappelle ma mère qui a été assassinée brutalement le 1er avril 1981 pendant qu'elle était couchée dans son lit, c'est quand on est en sécurité chez soi, là, puis qu'il est 11h30, puis qu'on décide, bon, on va aller faire on va se coucher parce qu'on travaille demain, là. Ben, ma mère, c'est ça qu'elle a fait. Elle est allée se coucher parce qu'elle travaillait le lendemain. Ma mère travaillait, elle était adjointe administrative pour Probe Science, qui était au 666 Sherbrooke-Est, Sherbrooke-Ouest, je veux dire, dans le temps. C'était une compagnie de logiciels. Donc, contrairement à ce que bien des gens pensaient, que ma mère, c'était une prostituée parce qu'elle avait été assassinée, ben non, ma mère, elle gagnait sa vie de façon tout à fait légale, elle s'occupait de ses deux enfants. Et puis, elle s'en occupait même au point de m'initier moi-même à la photo. La photo que vous voyez à l'écran, c'est d'ailleurs une photo prise avec une caméra qu'elle m'a donnée. Puis ça fait partie de mes tendres souvenirs de 1980. Ça, c'était en novembre 1980, là, à peu près 4 mois avant qu'elle décède. Donc, c'est ça. Donc, à partir de là, c'est sûr que quand le meurtre est arrivé, ben, j'ai eu un choix à faire. J'ai dû aller, on m'a offert d'aller à plusieurs endroits. On m'a offert, c'est sûr, évidemment, chez mon père. Ma grand-mère m'a offert, des hommes, des tantes m'a offert. Donc, j'avais le choix. Puis, je peux prendre le temps que je voulais, puis je peux aller partout si je voulais. Ils ont été corrects à ce niveau-là. Je me suis pas senti comme contrôlé. Parce que quand ça arrive, une chose comme ça, là, on devient hyper sensible de tout. Là. Donc, si tu fais parler bête, ben, tu te prends très mal, puis même les gens qui étaient trop doux avec moi, au retour à l'école, les professeurs qui étaient pas gentils d'habitude, étaient tous gentils avec moi, puis ça m'agressait, là, au plus haut point, là. J'aimais pas le changement des gens à mon égard, à ce moment-là. Donc, puis j'étais seul à vivre une histoire semblable. J'étais même pas capable d'extérieur, juste de le dire, puis j'avais quasiment le goût de pleurer, fait que je le disais pas. Fait que là, les gens te demandent qu'est-ce que tu as souvent. C'était, j'ai rien, là, puis fous-moi à paix. Dans le fond, j'aurais juste aimé avoir la carrière. C'était dur. J'avais 13 ans. J'étais un garçon. J'ai pas une famille nombreuse. Ma mère était très aimante avec moi. Mon père, on se disait qu'on s'aimait, tout ça. Mais le dialogue, le meurtre, non, c'était pas quelque chose que j'étais capable de gérer, si vous voulez. Fait que je l'ai géré avec la musique, de l'humour, des amis, puis essayer de me changer les idées. J'ai quand même bien tourné, j'ai eu des bons amis. C'est ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir fait le bon choix d'amis. Et puis,
Dirais-tu, Stéphane, que t'as mis ça de côté un peu, ta peine, puis le drame, pour réussir à vivre, à survivre?
oui, parce que la réalité, là, c'est que malgré tout, quand ma mère a été assassinée, bon, j'ai pas pu aller à l'hôpital. Fait que je l'ai pas vu. J'étais trop jeune. Ça prenait 14 ans, j'en avais 13. C'est ce qu'il me disait. Je sais pas si c'est vrai, là, mais c'est ce qu'il disait. Fait que là, elle décède 3 jours plus tard parce qu'elle est décédée 3 jours plus tard. Elle l'a retrouvée vivante le 2 avril, le matin. Elle n'a jamais pris connaissance. On l'a transportée à l'hôpital. Elle est décédée une première fois le 3 avril. Ça, j'ai su ça presque 40 ans plus tard. Puis finalement, on l'a déplogué parce qu'elle était le légume de la veille le 4 avril. Donc, une décision qui a été prise, qu'il n'y a plus rien à faire avec elle. Donc, quand elle a été, en fait, au salon mortuaire, qu'elle a été, bon, dans son cercueil, qu'il y a eu les funérailles, ben, le cercueil était fermé. J'ai pas vu ma mère. L'autre chose, c'est que ma mère, elle me parlait souvent de la mort, tu sais, parce que moi, ça me faisait peur, la mort. Fait que je posais beaucoup de questions. Puis là, elle me disait, moi, quand je vais mourir, là, tu sais, je veux que tout le monde fasse une fête. C'est joyeux. Si on passe dans une autre vie, puis, tu sais, puis bon, c'est le début de d'autres choses. Puis elle essayait de, tu sais, puis c'est beau, il y a des belles couleurs de l'autre côté. Ben, elle racontait tout ça. Puis elle disait, moi, je veux pas de fleurs quand je vais mourir. J'aime pas les fleurs, finalement. Je veux pas avoir les fleurs. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde pleurait. Fait qu'il n'y avait pas personne de joyeux. Fait que
Il
là,
n'y
je
avait
te
pas de
dis,
fête là.
non, mais je suis déçu. Je savais que c'était pas le moment de fêter, mais c'était
Ouais.
pas quoi le meurtre. Je l'ai pas vu. Pour moi, ma mère avait mangé un coup de poing dans la face. C'est ça qu'elle a eu dans ma tête. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle décède. Quand elle est décédée, je dis, mon Dieu, elle a dû manger plus qu'un coup de poing dans la face. Puis là, c'est les journaux que j'ai pu lire qui ont sorti le 8 après son décès que, ah, OK, est-ce que la famille me disait pas? Ben, il y a eu des potins aussi que j'ai ramassés aussi avec le temps, mais c'est ça. Alors finalement, ben, là, j'ai perdu mon fil d'idée où est-ce que je vais en aller.
Fait que là, t'as été mis à l'écart, en fait, de cet événement-là qui est
Ben,
arrivé.
je me suis mis à l'écart, en effet, dans le sens que j'ai pas voulu en parler, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, j'étais soit insulté par des gens qui disaient, ben, c'est une pute, puis qu'elle meurt. Ça strike de même. Tu sais, j'avais 13 ans, mes amis, elles avaient 13, 14, 15, 16, là. J'allais quand même au secondaire, à l'Académie Michel Courbeau. Puis, pour la plupart des gens, là, c'est plate, là, mais c'est ce que le monde pensait. Même les adultes, il y en a qui me disaient, ah, c'est une femme qui était, tu sais, qui
Mais
sortait,
voyons donc.
c'est un club, tu sais, c'est tout le temps, c'est comme de sa faute, finalement, tu sais, fait que, moi, ça m'insultait, puis là, au bout de quelques mois, j'ai commencé à dire que ma mère était morte d'une crise de cœur. C'est bien plus simple de même. Aïe, aïe, c'est bien trop jeune. Ça s'arrêtait là. T'sais, mais la réalité, en fin fond, c'est ça que je voulais dire. C'est que vu que j'ai pas vu à l'hôpital, je l'ai pas vu dans son cercueil, finalement, on l'a amené pour se faire incinérer. Là, je l'ai vu descendre son cercueil, puis je l'ai pas vu se faire enterrer. Puis elle a été enterrée dans une fosse commune. Puis elle a pas de pierre tombale. Puis ils ont enlevé les plaques. Fait que je sais plus ce qu'elle. Ma mère a disparu après son meurtre. Ça, c'est ma réalité d'aujourd'hui que je peux dealer avec. Fait que, puis en plus de tout ça, ben à cause de tout ça, ben j'ai pas cru que ma mère était morte. C'était tout invraisemblable, tout ça, là. Voyons, là. Je vois rien, j'ai pas de preuve de rien, j'ai pas de pierre tombale. Le monde m'en parle pas autour de moi. Fait que j'étais 2 ans à attendre qu'elle m'appelle. J'étais
Ok, ça
2 ans
fait
à attendre.
2 ans avant que tu te rendes compte que c'est un cauchemar, puis que c'était pas la réalité. La réalité, c'était qu'elle était pas morte d'une mort naturelle, là.
C'est une joke qu'on me faisait. Ma
Ouais.
mère, le 1er avril, on se faisait des jokes. Tu sais, ça, c'était rituel. Elle était le fun pour ça. Tu sais, c'était vraiment une partie compliquée. Puis, il y en avait une joke la dernière, ben, une des dernières, le 1er avril, que j'étais à la maison. Ça fait que ça devait être un samedi à un moment donné. Bon, elle portait une perruque. La mode des années 70 portait une perruque. Toutes les madames avaient une tête en styrofoam avec une perruque dessus. Elle a mis sa tête en styrofoam, dans couverture, sur l'oreiller, avec une forme de corps dans son lit. Puis là, c'était comme ça, elle ne se réveillait pas le matin. Là. Moi, j'avais eu peur. Puis là, man. Puis là, je vais voir les femmes, elle n'était pas là. Là, c'est sa joke du 1er avril, ça en a été une. Puis moi, ben, j'avais pris sa tête, puis je l'avais accroché avec une ceinture, sur un crochet de jardinière, comme si j'avais, avec un pyjama pas trop pesant, puis comme si je m'étais pendu. C'était vraiment. C'était une joke. Fait que là, quand c'est arrivé pour de vrai, c'est arrivé le 1er avril, pour moi, c'est quand même là. En tout cas, dans ma tête de jeune de 13 ans, qui refusait de croire, en plus, sûrement, ben, j'ai refusé de croire. Pendant 2 ans, même si je faisais.
Toi, tu faisais croire, des liens qui n'existaient pas, là.
Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. En gros, c'est ça. Fait que finalement, à 15 ans, je me suis dit, ben, c'est quand que j'ai réalisé là, que ma mère était décédée, c'est quand que je suis allé au poste de police de Longueuil, j'ai rencontré une enquêteur au dossier. J'ai dit, je veux voir les photos de ma mère. Puis dans son livre, je veux voir les photos. Il m'a pris une enveloppe, il m'a pitché ça sur la table. Tu veux, ouais, il dit, regarde-le.
Mais voyons, on
va. J'ai pris les photos dans une enveloppe jaune qui était 5 par 7, à peu près, des photos, il y en a peut-être une vingtaine dedans. J'ai ouvert les photos, puis j'ai vu que c'était des photos noir et blanc. J'ai refermé l'enveloppe, je l'ai pitché, puis ça a dit que là, je me suis donné chez nous. Ça a commencé là vraiment mon deuil.
Avec quel âge à l'époque, Stéphane?
J'avais 15 ans.
15 ans, puis tu te lances pas comme ça?
Mais là, c'est ça à la table, comme si je voulais se débarrasser. Tu sais, c'est plate, là, mais les enquêteurs de Longueuil en 1981. Là,
un gros manque d'humanité.
Tu sais, je vais épargner mes mots, là, parce que j'aime pas ça. Tu sais, c'est de la vieille police. Mm-hmm. La vieille police, elle n'a pas été enlevée pour être remplacée par de la nouvelle. Il y a de la nouvelle police qui s'est mêlée à travers la vieille police avec le temps, puis c'est dur de se débarrasser des vieilles habitudes. Mm-hmm. Mais ils s'en viennent bien, Longueuil. Ils ont donné un bon coup de barre, là, je pense, au niveau des enquêtes. Ils ont résolu de l'irrésolu. Fait que bravo, je leur tape dans le dos, mais j'ai pas de félicitations à leur faire pour avant 1981. Je suis désolé. Là. Ça, ça changera jamais dans mon discours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous m'invitez à soir. Parce qu'à cause des réponses et des expériences que j'ai vécues à la police de Longueuil, ça m'a enragé. Ils se sont pris à la mauvaise personne. Pour me prendre pour un imbécile. J'ai été pris pour un imbécile plusieurs années, jusqu'à temps que les enquêteurs d'origine quittent pour leur retraite, puis que là, ça change d'enquêteur, bien là, c'est sûr que mon attitude a changé, parce que c'est pas parce que t'es pas bon avec moi que celui qui te remplace n'est pas bon non plus. J'ai c'est toujours ça. Donné une chance au coureur, puis dans les nouveaux enquêteurs, là, les 3-4 derniers, là, bravo. J'ai pas grand-chose à dire, sauf que je suis déçu d'avoir obtenu une réponse primordiale à une question que je pose depuis 1992. Je l'ai su en 2025, puis ça a tout changé, mon discours au complet, juste parce qu'ils m'ont pas fourni une information qu'ils auraient pu faire quand je l'ai demandé. Fait que ça a changé un peu la donne, mais... C'est correct, je suis capable de replacer ça dans mon esprit.
En fait, c'est arrivé le 1er avril 81, tu avais 13 ans. C'est dans la nuit du 1er au 2 ou dans la nuit du 30
au 1er? La soirée du 1er, donc le 2 au matin, elle a été découverte. 11 heures plus tard, 12 heures plus tard. C'est arrivé vers 11h30 le soir, puis à 11h30 le matin, elle était transportée à l'hôpital.
OK, puis toi, tu étais déjà parti à l'école?
Moi, j'étais pensionnaire. Je dormais à l'école.
Ah, OK.
Ma soeur handicapée, elle demeurait au Renfort à Saint-Jean, qui était un centre pour enfants handicapés.
Mm-hmm.
Puis là, j'étais pensionnaire à l'Académie Michel Provost. Fait que mon horaire, moi, je partais lundi matin avec ma mère, je prenais le métro, puis je revenais le vendredi après-midi à 14h, je finissais l'école, je reprenais le métro, je revenais à Longueuil.
OK. Fait que la dernière fois que tu l'as vu, c'était le lundi de cette semaine-là.
Ouais, j'étais pas content après elle, en plus de ça. La dernière fois que j'ai vu ma mère, j'étais fâché après, puis j'ai dit, ben oui, c'est ça. La dernière chose que j'ai dit, ben oui, c'est ça. Elle voulait que je me fasse couper les cheveux, je voulais pas me faire couper les cheveux. Fait que là, elle m'avait dit, ben là, si tu veux pas te faire couper les cheveux, ben tu vas passer à la balayeuse samedi prochain dans le salon, puis dans la cuisine. J'ai dit, ben ouais, je vais passer à la balayeuse la semaine prochaine, ça me dérange pas, tu sais. Fait que, finalement, j'ai pris le métro, j'ai boudé. Puis quand elle est partie, là, elle passe la semaine, Stéphane, je t'aime. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr, ça résonne dans ma tête aussi, mais je me pardonne. Tu sais, j'étais un enfant, je vais avoir les cheveux longs. Puis, elle me dit un lundi matin qu'il fallait que je me fasse couper les cheveux, ça me tentait pas. Puis, tu sais, c'est comme ça, puis c'est correct. Tu sais, je leur viendrai pas à la vie. Je sais que je l'aurais vu le vendredi, puis je leur dis, qu'est-ce qu'on mange, puis je calme, puis ça se passe une semaine. Fait que, tu sais, je suis capable de gérer ça, c'est niveau. Mais je regrettais un petit peu, au début.
Fait que là, ils t'ont appelé au collège?
Pardon?
T'as été appelé au collège?
Ouais, en fait, c'est moi qui étais malade au collège. Quand c'est arrivé, je sais pas, on avait une bonne connexion avec ma mère. Quand ma mère avait mal au ventre, elle était à l'école, elle avait mal au ventre, c'était fait. Je me suis battu avec un collègue dans le joint à Saint-Razin qui s'appelait. Je me suis battu avec dans la classe d'art plastique. On s'était battu avec de la gouache. Puis là, j'avais été collé un samedi parce que les Français, quand t'es pas fin, t'as pas des retenues à la fin de l'école. Des retenues le samedi, de 8h à 4h. Puis tu fais du bled. Fait que je fais ça une fois, cette fois-là. Puis c'est la fois qui m'avait marqué parce que ma mère avait découvert le poteau rose en me disant qu'elle avait mal au ventre. Puis j'ai dit, OK, ça reste de même, tu sais. Puis, mais le 1er avril, au soir, mal au ventre. Mais mal, là, au point là, que le 2 avril au matin, je pleure dans la classe. Pleurer dans la classe, mais un gars de 13 ans.
Ouais.
Puis après, tu sais, parce que ça fait mal. Là, puis j'avais pas le droit de sortir. Fait que j'étais comme pris là, puis. Fait que finalement, ben, j'étais à l'infirmerie, là, ils essayaient d'appeler ma mère, ça marchait pas, ils ont appelé on a employeur de ma mère, ils ont dit qu'elle n'est pas rentrée. Fait que là, ils se demandaient, OK, ils ont appelé la mère, fait qu'ils ont appelé ma grand-mère, non, elle n'est pas rentrée. Ben, elle a dit à son fils, mon oncle, qui habitait avec elle, tu peux-tu aller voir chez Thérèse, tu sais, chez Roxane? C'est là, puis c'est lui qui s'est déplacé, il était là en auto, puis la porte d'en avant n'était pas barrée, elle était entrouverte un petit peu, il l'a ouvert, il était inquiet, puis dans la chambre, là, il a vu la scène de sa
femme. Ah, mon Dieu!
Bon, oui, c'était quelque chose. Là, il a paniqué. Je sais pas, même lui, il ne sait pas s'il a essayé de téléphoner. Il s'en souvient pas. Quand j'ai demandé, il dit, je me souviens pas, il me semble que non, je me souviens, je pense pas.
Il est en état de choc.
Ouais, lui, c'était pas le télé. Il voulait pas rester là, premièrement, probablement. Tu sais, moi, je vais aller en police tout de suite. Je peux pas aller, pas faire. Puis, heureusement, c'était pas loin. Fait qu'il s'est ramassé en police à toute vitesse. Puis, ils se sont ramassés à la maison. Ils ont ramassé ma mère. Puis là, ça a pas été traité comme un meurtre. C'est encore vivant. Donc, tout le monde, les ambulanciers, les policiers dans la maison. Ah oui. Donc, on marche partout. Puis, on fait attention. Puis, on peut pas les en vouloir. Mais quand on trouve quelqu'un blessé à ce point-là, là, j'espère qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pareil. J'espère qu'aujourd'hui, ils vont dire, on va faire attention au cas où qu'elle décède et qu'elle ne parle pas.
Mais oui.
Pour protéger la scène de crime, j'imagine qu'il y a eu de l'amélioration à ce niveau-là. T'sais. Mais c'est comme ça qui se passe.
On le souhaite qu'il y ait eu...
Christian.
Oui, j'allais dire, on le souhaite qu'il y ait eu de l'amélioration parce qu'après ça, il y a eu l'enquête, puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été bâclées, puis il y a eu aussi des preuves qui ont été éliminées. Peux-tu un petit peu nous en parler?
Bien sûr, mais en
fait... De l'enquête, puis de la suite des choses, là.
Bien, j'ai fait comme toute la plupart des familles qui sont inscrites chez nous, j'ai fait confiance à la police. Hein? Parce que quand une affaire de même arrive, ben, tu te dis, il y a un meurtrier qui va se faire poigner, la police est bonne, puis il devrait être bon pour te prendre, puis tout ça, fait que j'ai laissé ça aller, là, 16 ans. Ben, pour vous dire, j'ai donné la chance en masse. Mais pendant ces 16 années-là, j'allais voir l'enquêteur au dossier, tu sais, puis le primaire, parce qu'il était deux, là. Il y en avait un en tête, puis l'autre qui suivait, là, sorti suiveux. Fait que j'allais voir le principal pendant jusqu'en 90, à peu près, là. Peut-être un bon 9 ans, là. Jusqu'à temps qu'il se fasse mettre dehors de la police. Il s'est fait mettre dehors de la police. Okay. Des raisons X. Et puis, là, après ça, j'ai été voir l'autre, mais juste pas mal plus tard, là, en 1997, ça faisait 16 ans. Donc, j'ai toute une période de 90 à 96 que j'y ai pas été. J'avais des enfants, je commençais à faire mes enfants. Fait qu'à un moment donné, ça commençait à me titiller. Puis là, ce qui se passe avec cette enquête-là, je voyais moins ma famille, fait que j'avais moins de feedback de ta famille, même si on n'avait pas de feedback. Fait que là, j'ai décidé que là, moi, ça me tentait d'en faire de la photo. J'ai sorti le laboratoire à ma mère, puis pour une millième fois, je me demandais ce qui sont les négatifs qui viennent de laboratoire. Ben, j'ai quand même comme 3-4 ans de photos, comme vous avez vu tantôt, en noir et blanc, on a développé les films et les photos. On passait 36 poses par fin de semaine, on les développait chacun. Ça fait quand même 72 poses à deux, à toutes les fins de semaine pendant plusieurs années. Tu sais, puis c'était notre dada, on aimait ça. Fait que toutes ces photos-là, je les ai pas eues avec mon laboratoire. Fait que j'ai posé la question à la famille, j'ai posé la question partout, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, il reste la police, puis il reste le suspect. Fait que j'ai envoyé une lettre au suspect par la poste, Poste Canada, puis j'ai demandé de me répondre à mon adresse Vidéotron. Je le mentionne, Vidéotron, parce qu'en 1997, ce meurtrier-là, il a appelé Vidéotron, puis Vidéotron, il a donné mon numéro de téléphone. Oh. Fait que j'étais pas content, là. Parce que là, je venais, moi, là, j'étais sûr que ce gars-là, c'était un tueur. Mm-hmm. Tu sais, pour que je sache ce que j'étais, j'ai pas, j'ai envoyé un message postal en lui demandant de m'écrire par courriel. Tu sais, je savais qu'il était en plus de ça, il travaillait dans l'informatique quand il était, je savais qu'il était capable de se débrouiller. Finalement, lui, il était plus wise que ça, il était chercher mon numéro de téléphone, tu sais, puis qu'il était pas à mon nom, dans le temps, tu peux pas avoir. Fait que, ça pour dire
là, tu dis que c'est suspect, ça. C'est suspect. Principal.
De la police, de la famille. À un moment donné, moi, il est tombé suspect numéro 2. Je suis tombé avec d'autres types de suspicions dans ma tête jusqu'à temps que je puisse aller chercher des réponses. Là. T'sais, mais j'ai toujours comme été très, très, je suis pas narrow-minded. J'ai pas l'esprit tunnel. Là. C'est-à-dire, moi, je vois à large, là, puis en me disant de l'information, je vais la traiter. T'sais, donc, ouais. Fait que c'est ça. Okay. J'ai pas besoin de
collecter. En 81, quand l'événement est arrivé, tes parents étaient-tu encore ensemble?
Non. Mon père avait sa copine depuis 6 ans, il habitait avec. Et puis, okay. Il était séparé depuis 10 ans. Donc, mais la relation était bonne parce que ben, j'en étais témoin. Même d'ailleurs, la fin de semaine d'avant. Pas la dernière fin de semaine, l'autre fin de semaine d'avant. On avait été invité à aller au centre où ma soeur était. Puis, on avait embarqué avec mon père, justement. Fait que ma mère avait dit, hey, tu veux voir où est-ce qu'elle est ta fille, puis ça. Fait, je trouvais ça le fun qu'il était capable de se parler. Des fois, je les entendais se parler au téléphone. Là, dire, j'ai un problème avec le père, je vais aider là-dessus. Tu sais, puis, mon père, tu sais, la relation était bonne. Avec Steven, ce gars-là, c'était son chum anglophone qu'elle a eu depuis les 3-4 dernières années. Lui, c'était un autre type. Moi, j'ai pas vu de violence, mais ma mère aurait manifesté sa violence à sa sœur, tu sais, puis à d'autres membres de leur famille. Tu sais, elle n'a pas parlé à moi, évidemment. J'étais tout petit, mais j'aurais pas été content d'apprendre ça non plus. Je serais devenu peut-être profond avec lui. Tu sais, j'aurais pas accepté ça. C'est ça.
OK. Fait que là, de 81 à 90, à peu près 91, il y a eu une première enquête. Là, tu as laissé ça aller. Puis en 97, tu as repris ça.
Ouais.
Avec quoi en tête?
Avec, je vais avoir mes négatifs. Fait que vu que le suspect m'avait répondu qu'ils n'avaient pas. Puis en plus de ça, à travers ça, ben j'ai échangé avec lui, j'ai parlé au téléphone, là, j'ai vu où est-ce qu'il était, j'ai dit, je vais aller le voir. J'ai dit, je vais aller le voir, pareil. Puis quand que j'ai été le rencontrer, ça c'était en novembre 97, je rentre dans un centre, c'était un centre de soins de longue durée. Puis je pensais qu'il était employé, là, puis là, il y a M. Chaise Roulande qui m'accueille, puis il dit, Stéphane Luce, join. Il dit, hi. Puis ça la main, c'était lui. Dans la chaise roulante. Ouais, il a mangé une volée. Il s'est fait battre, lui, en 1988, à coup de soulier, donc à coup de pied. L'arme du crime, c'est un soulier, là, mais c'est des coups de pied, absolument. Il était dans un bar, puis il a eu des séquelles toute sa vie. Dans la chaise roulante, il était dans le coma 2 ans et demi de temps, de 1988 à 1990. De 90 à aller jusqu'à 2000, ben, il était dans le soin de longue durée, jusqu'à temps qu'il marie son infirmière. En 2000, à peu près, 2001, puis là, jusqu'à son décès au mois de novembre dernier. Donc, c'est pas mal son histoire à lui, là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Fait qu'en 1900, votre question, c'était quoi? J'ai beaucoup de choses en tête, là, je m'excuse là, si je suis un petit peu distrait. Je m'égare.
Ben, notre rôle, c'est justement de te poser les bonnes questions. Fait que ce gars-là, il était suspect, pourquoi?
Ben, justement, pour sa part, ben, quand je prenais une bière, il devenait un petit peu plus violent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit vraiment, là. C'est ça qui est sorti le plus. Moi, j'ai rien vu. Même que j'avais de la difficulté à croire, c'était quand que j'étais jeune. Quand je l'ai rencontré en 97, il m'a dit, tu sais, Stéphane, ça fait 16 ans que j'attends que tu viennes me voir. Soit, ben, tu sais, Steven, ça fait 16 ans qu'on me dit que tu as tué ma mère. Tu sais, je veux dire, elle a pu m'appeler, elle a pu faire quelque chose.
Ben oui.
Lui, là, puis, avec un anglais, là, très. Ben, c'est quand même pas pire dans cette année-là, mais c'est sûr que je l'avais rencontré moi en 83. J'ai fait deux fois, tu sais, je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune, là, encore plus de mère. J'avais été seul dans son appartement, là, quand j'avais 14 ans. Pour y poser, ben, je comprenais rien de l'anglais. Fait que ça n'avait pas donné grand-chose, ma rencontre. Mm-hmm. Ça, lui, il avait changé. Il a voulu avoir la barbe, les cheveux longs en arrière, puis tout l'équipement de photographie dans la maison. Il était rendu rasé, puis de barbe, juste du stock d'armée. Tout. Tu sais, pour moi, ça fait de OK. Il est arrivé quelque chose de drastique. Soit qu'il a mal pris le décès de sa blonde, ou, tu sais.
Ouais.
On n'a pas eu de blonde.
Qu'est-ce qui a répondu à ça quand tu lui as dit, oui, mais ça fait 16 ans qu'on me dit que tu as tué ma mère?
Ah, il dit, je te jure, je ne l'ai pas tué. Il dit, I swear, I didn't kill her. Ben, moi, je l'ai
tué. Il était accusé, mais il n'a jamais comparu en justice ou quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, quelque chose du genre. Là. Fait que là, à partir de 97, toi, tu as comme repris ça en main. Tu as dit, wow, là, il y a quelque chose qui cloche pas là-dedans, là, c'est ça?
En fait, en 97, moi, je demandais pour mes négatifs, ben, me faire répondre.
Ouais.
Ah, ben, j'ai OK. Puis là, après ça, j'ai dit, ben là, c'est sûr, je me suis pas arrêté. Ça, je peux voir le dossier. Non, tu peux pas. Là, tenez bien l'année, on est en 97. Je peux-tu lire le dossier? Non, tu peux pas. C'est OK. T'es sûr? Parce que là, moi, il me semble que je pourrais avoir plus d'informations. Je pourrais peut-être aider à l'enquête. Puis, j'ai été un petit peu harcelant jusqu'à temps qu'ils disent OK, là, on va te le montrer. Mais si tu dis à qui que ce soit que tu as vu ça, je vais nier. Ouais, c'est pas de problème. Je me donne dans moi-même. Même si tu dis, je veux pas que tu vas venir te voir et te dire, t'as montré ça à Stéphane, tu sais, en tout cas. Fait que, finalement, on a commencé à le regarder après avoir été invité une autre fois à les rencontrer. Puis là, il tournait les pages, contrôlait un peu les pages. Là, c'est moi qui contrôlais l'arrêt des pages. J'étais peu, je ne sais pas trop vite. Je suis capable de lire vite, mais laisse-moi lire, s'il te plaît. Fait que là, à un moment donné, c'était écrit, oh, OK. Ah, c'était avec un bâton. Attends, battu avec un bâton. Oui. Quand tu pensais qu'il était battu, ben, poteau de clôture. C'est ce que la famille me dit encore aujourd'hui. Hey, t'as non, c'est un manche de mop. Commercial, grosse mop, là. De 26 pouces. Ah, ouais, OK. OK. Là, je continue à aller. Ah, il y a une empreinte digitale sur le bâton, vous voyez? Ben, voyons, vous avez l'empreinte du tueur? Il dit, ben, probablement oui. Ah, oh, ben, vous faites un match, quelque chose? Ben, il dit, sûrement. Mais non. Oui ou non? Pas sûrement. Oui ou non? Je veux savoir si c'est dans votre système. Là, je me suis renseigné sur le système avec le temps. Là, c'est Miracode. C'est Laval Perron qui s'occupait de ça à la SQ en 1981. J'en ai appris pas mal. Puis là, je disais ça à lui. Puis il disait, hey, mon papa, ma job. Ben là, moi, je me choquais. Là, parce que là, hey, t'es un peu, là, t'as une empreinte digitale. Après ça, je dis, ça avait un cheveu. Vous avez le cheveu. Il y avait un bâton qui avait été mis dans un sac de vidange, enroulé dans le sac de vidange, tapé à cinq endroits avec du tape électrique noir, puis utilisé pour battre ma mère. Quand ils ont défait les bandelettes, ils les ont jetées, ils les ont perdues, en tout cas, ils les ont pu. Fait que, ça, ces bandelettes-là, ça aurait pu dire que ça venait d'une menuiserie, d'un endroit où ils font des gâteaux parce qu'il y avait de la farine dessus. Tu sais, il aurait pu avoir des indices de coller sur la roulette de tape que tu mets de côté sur une table. Tu vas ramasser des pellicules de quelque chose. Des pellicules de la peau de la personne qui l'utilise, peut-être. Fait que ces cinq bandelettes-là auraient pu être aujourd'hui analysées, sortir des profils. Mais ils ont pu. Le sac dans lequel, un sac Glad vert, il n'existe plus non plus. Il n'y a pas de rapport d'analyse, ni des cinq rubans gommés de tape électrique, ni du sac. Puis, il y a le cheveu qui pue là. Puis, l'empreinte, finalement, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu l'empreinte, ils ont détruit le cheveu, ils ne savent pas ce qui s'est passé avec les cinq bandelettes puis le sac.
C'est donc bien enrageant, ça.
Ben oui, moi, je suis posé de rester calme.
Mais oui.
En plus de ça, on me dit, oh ouais, ben on n'a pas besoin de l'empreinte digitale pour résoudre le crime. Je vais résoudre. C'est ce genre d'expérience-là qui a alimenté en moi quelque chose. Ben non, tu ne peux pas répondre ça à quelqu'un. Là. Je sais bien que je suis juste Stéphanus. Je suis juste un petit cul de 30 ans que j'avais dans le temps. Tu sais, puis je regardais l'enquêteur avec ses 30 ans de service qui m'a regardé de haut. Pas un raisin. Puis j'étais traité un peu comme criminel quand j'arrivais au poste de police. Assieds-toi là, comme tu disais.
Ah ouais?
Non, je me suis pas là.
Aucune égard à ta personne.
Tu dérangeais.
Ouais. Puis ça, c'était des policiers qui étaient dans le passage, là, en plus de ça, qui parlaient de même. Moi, j'acceptais pas ça. J'accepterais pas ça aujourd'hui plus. C'est inacceptable. Le policier n'est pas supposé d'être hyper poli avec toi, mais il est supposé être gentil après ma mort. Tu sais, bonjour, bonjour. Je veux dire, ça va, est-ce qu'on vous a répondu? Oui. Je peux-tu vous aider? Qu'est-ce que vous faites dans le passage? Je dis, ben, j'attends M. Villot qui me démontre les pièces à conviction que je suis venu voir parce qu'au téléphone, il m'a dit qu'il était disparu, mais quelqu'un d'autre m'a dit, par contre, au téléphone, qu'il était ici. Fait que je suis venu constater par moi-même. Puis quand j'ai constaté par moi-même cette fois-là, ben le cheveu était plus là, tu sais. Fait qu'au téléphone, il y avait un cheveu, je suis descendu, puis quand je suis arrivé, il y avait plus de cheveux. Fait que je sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là, je veux pas... C'est juste drôle. C'est les deux réponses que j'ai eues cette journée-là, puis ça changera pas, là, même dans 40 ans, je vais dire la même chose, mais si je peux là, là, ben c'est ça pareil, c'est ce qu'on m'a dit, puis ça m'a triggeré, ça m'a vraiment enragé.
Mais qu'est-ce qu'on fait, Stéphane, quand justement on vit tant de colère et de frustration? Comment tu fais pour passer à un autre état d'esprit?
Mes enfants.
OK.
Ma famille. Je reviens chez nous, moi, j'ai un rôle.
Oui.
J'ai un rôle d'homme fort. Je ne parle pas de ça, mais je veux pas, ils ne sont pas prêts à entendre ça. Ils sont encore trop jeunes. En 1997, ma fille avait 2 ans. J'avais 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, j'avais en 97, mes enfants.
T'as 4 enfants?
J'ai 4 enfants, oui.
T'as pris une vengeance sur la mort?
Merci. Ma fille s'appelle Roxane. Quelle surprise, hein? Ben, c'est ça. Fait que, non, mais comment? Oui, c'est sûr que j'ai été 2 ans quand mes enfants étaient couchés, que j'allais dans le sous-sol et que je voyais du noir. Ma femme n'était pas à l'aise avec le fait que je fréquente la police, que je prends ces affaires de meurtre. On savait pas c'était qui dans le temps. Puis, elle était nerveuse de ça. Fait que je faisais pas exprès pour en parler, premièrement. Fait que tout se passait encore une fois dans ma tête. J'étais souvent seul avec ce problème-là dans ma tête. Fait que c'est pour ça que j'ai été capable de penser à bien des choses. Puis c'est surtout quand j'ai commencé à rencontrer des familles qui ont vécu sensiblement la même chose que moi, que je me suis dit, mon Dieu, je suis pas seul d'être frustré de la même façon, pour avoir les mêmes réponses, ou les mêmes non-réponses, ou les mêmes attentes, ou t'appelles un enquêteur, il te rappelle dans 4 mois, tu lui poses des questions, il dit qu'il te revient dans 2 semaines, il te rappelle il ne te rappelle pas, faut que tu le rappelles, puis je pourrais y reparler dans 1 an et demi, puis là, quand il dit qu'il va te rappeler dans 6 mois, puis quand tu viens pour le rappeler encore, ben, ah, il y a eu une promotion, il est plus là, c'est rendu un autre enquêteur qui est pas au courant du dossier. C'est comme ça la réalité en 2025. C'est plat.
Dis-moi, Stéphane, avant de commencer à parler de MDIC, t'as-tu déjà consulté, toi, pour ça, psychologiquement?
Non? Une fois, j'ai été comme forcé parce qu'à l'école, j'étais distrait, j'étais dissipé un peu, j'étais énervé. J'étais toujours souriant, mais dérangeant. Tu sais, j'étais fatiguant. Même aujourd'hui, je pense que je me placerais moi-même. Je disais, hey, comme tout. Mais là, on m'avait demandé d'aller voir le psychologue de l'école qui m'aide, en fait, à établir c'est quoi le problème que j'ai vraiment, puis pourquoi que je suis pas... à mon affaire, finalement, parce qu'il me trouvait bien intelligent. Tu sais, j'ai toujours été quand même bright, là. Tu sais, je me suis jamais fait traiter d'idiot parce que je pensais drôle, là, mais j'ai toujours eu des bonnes idées, tout ça. Puis mes professeurs me disaient tout. Ben, on est déçus, tu sais, que ça me semble que t'as plein de potentiel, puis tu fais rien, puis
mais oui.
Moi, ben, Comme je vous ai dit, ma mère est morte d'une crise cardiaque, c'est tout. Je n'ai pas parlé de rien de ça à mes professeurs, puis il n'y a pas pensé de tout de ça. Fait qu'ils pensent juste que j'étais un petit rigolo, là, qui fait rigoler.
Mais oui.
Fait que.
Fait que toi, t'as vécu ça, puis t'avais personne pour te confier?
Non, personne. Même pas une sœur. Ma sœur est handicapée. Je peux même à mon égal, à moi, là, si j'avais eu une sœur, on aurait vu ma sœur, la même chose que moi, on aurait pu se parler. Tu sais, ça m'a manqué, mais.
La famille, frère, sœur de ta mère.
C'est ça, c'était des oncles étants, mais qui. Quand on se voyait, ma grand-mère était là. Fait que si on en parlait, ma grand-mère, ça allait pas la mère.
Il y avait un malaise.
C'était difficile. Moi, j'aimais parler de ma mère avec ma grand-mère, mais je ne pouvais pas aborder le sujet en premier. J'aimais mieux qu'elle dise, ah mon Dieu, tu peux penser à ta mère, et qu'elle part à pleurer. Là, je posais plein de questions sur ma mère.
OK.
À pleurer.
Tu l'as provoqué, ça.
Ben non, puis là, je sentais qu'elle se vidait du bien à parler. De toute façon, tu le sens quand tu fais du bien à quelqu'un. Là, je posais des questions. Là, j'ai eu des réponses, mais pas sur le meurtre. Tu sais, sur ma mère, sur sa vie, sa relation, sur comment est-ce qu'elle était.
Sur sa personne.
Là. Ouais, jamais sur le meurtre. Je ne pas. Je trouvais qu'elle faisait pitié, ma grand-mère. Tu sais, elle était.
Fait que là, sans support, par toi-même, tu as commencé à poser des questions, à essayer de faire comme une deuxième enquête, on pourrait dire. Est-ce que tu étais dans cette optique-là, t'étais-tu comme en confrontation avec le service policier ou tu étais plus comme, ben écoutez, je vais essayer de trouver des réponses, qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider?
Ben c'est ça, c'est la deuxième option. Moi, c'est je veux trouver des réponses, qu'est-ce que je peux faire pour aider, mais la façon qu'on me répondait, c'était comme, fais de l'air, là. Voilà, pose un truc, tu finis là, je ne prends pas de police, pour qui tu te prends? Dis-moi pas comment faire ma job. Quand j'ai commencé à parler de l'ADN, là, moi, j'ai parlé de l'ADN en novembre 97 à la police de Longueuil. Puis, il me disait, montre-moi pas ma job, là. Oh, ça se fait pas des tests d'ADN, de toute façon.
L'Longueuil m'a placé.
Ben oui, ça se fait sur le cheveu. Puis là, j'ai même un courriel, là, parce qu'en 97, là, j'ai un courriel de l'Institut Louis Pasteur qui me confirme. Là, encore ce courriel-là, ben, j'avais posé la question, sur un cheveu qui n'a pas de racine, là. Puis ça, on a de l'ADN. Ils m'ont répondu qu'il pouvait y avoir une quantité infinitésimale de la racine sur le cheveu qui pourrait, oui, avoir de l'ADN. Fait que ma question au policier, c'était, à cette heure, je peux-tu voir le cheveu? Qu'on l'analyse, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas une quantité infinitésimale que vous n'étiez pas capable de détecter en 81, mais qu'aujourd'hui, en 97, on pourrait. Mais non, on n'a plus le cheveu, on l'a détruit. Il fallait faire de la place au laboratoire de la police.
Oui, ça prend de la place, un cheveu, hein?
Oui, on fait trois tiroirs de lamelles. De lamelles de cheveux, de sang, puis de sperme, puis de toutes sortes de crèmes. Il y a trois tiroirs. Tu sais, mais ils l'ont confirmé là, en 83, là. Hey! C'est du non résolu, là. Où est-ce que vous aviez la tête, là? Puis là, aujourd'hui, c'est le ministère de la Sécurité publique qui s'occupe de ça, mais dans le temps, c'était le ministère de la Justice. Fait que là, quand je veux chicaner quelqu'un aujourd'hui, ah, ben là, c'est le ministère de la Justice qui fait ça, c'est pas nous autres. Puis si je vais au ministère de la Justice, ben, on s'en occupe plus aujourd'hui pour rire. Tu sais, fait que c'est drôle, là. C'est drôle ou c'est pas drôle? Quand t'es là-dedans, ben là,
Fait que là, t'es dans les déboires, t'essayes toutes sortes de démarches, tout le kit, puis ça marche pas. Là, tu rencontres d'autres gens qui ont des histoires similaires à la tienne. Puis là, tu te dis, à un moment donné, là, on va se regrouper.
Voilà. Okay. En fait, c'est toutes les réponses un petit peu comme fâchantes, arrête, regarde, occupe-toi pas de ça, ben juste parce que ça fait 16 ans que je m'en occupe pas et j'ai pas de nouvelles, fait que c'est sûr que je vais continuer à m'en occuper là. Avec les réponses que tu me donnes, puis là, je vais rencontrer des gens parce que qu'est-ce que je viens de lire, là, j'ai des noms, fait que là, je vais aller voir ces gens-là. Là, j'ai commencé à faire des petites enquêtes, puis de poser des questions. Puis sur le long terme, il y a des gens qui sont fait poser des questions là, en 81, en 97. 2017, en 2011, en 2000, tu sais, puis c'est la même question que je pose. Mais je m'assure d'avoir la même réponse. Tu sais, c'est le même que j'ai testé mon monde dans le passé, puis j'ai commencé ça. J'étais même pas adulte quand j'ai commencé ça. J'ai dit, moi, le poignet, c'est quelqu'un autour de moi, parce que c'est ça qui se passe. Quand ça arrive, c'est qui? C'est-tu mon meilleur ami que tu es ma mère? C'est-tu son frère que tu es ma mère? C'est-tu son père que tu es ma mère? Tu sais, c'est qui? C'est-tu. C'est quelqu'un qui. Moi, je faisais plus confiance aux inconnus à un moment donné dans ma vie, que les gens qui étaient autour de ma mère, qui ont gravité autour de ma mère, quelqu'un qui arrivait de même, salut, mon père, t'es qui, toi? Ah, ils prenaient pas, il n'y a pas de danger, il y a zéro danger que ces gens-là. Tu sais, c'est sûr que j'aurais pu faire du pain, mais c'était quand même comme ça que je pensais. Fait que tu te méfies, là, tout le temps, finalement. Fait que là, j'ai décidé, là, à un moment donné, j'ai décidé de vouloir donner de la visibilité. Parce que là, je me rendais compte que ça, on parle plus du meurtre de ma mère, mais ça veut dire qu'il est résolu. Okay. Moi, je me suis questionné au moins minimum 25 fois dans ma vie, on m'a posé cette question-là. « Hey, le gars qui a tué ta mère, là, il est-tu sorti? » Ben, j'ai
Il ne m'est pas rentré.
Fait que si ces 25 personnes-là pensaient qu'ils étaient rentrés, imaginez où dans le reste de la population. C'est sûr que tu n'entends plus parler d'un meurtre irrésolu ou tu n'entends plus parler d'une disparition, mais ça veut dire qu'il a été retrouvé ou ça veut dire que le coupable a été retrouvé aussi. Donc, ça, c'est faux. Fait que j'ai voulu, moi, rendre ces victimes-là visibles, les mettre sur des trucs. Le fiche que vous voyez en haut, là, en arrière de moi, là, je vais vous la montrer de près. C'est le genre d'affiche qu'on met sur les camions, 30 par 36. Puis c'est autocollant, puis on met ça à gauche, puis quand la voiture dépasse, c'est un shampoo. Ben, voilà. Roxane Luce a été assassinée. Là, on m'a battu à mort. Pourquoi? Par qui? S'il vous plaît, parlez. Ça, c'est Roxane qui s'adresse.
Ben oui.
Toutes les affiches qui ont été faites, toutes les phrases qu'on retrouve sous la photo, c'est la famille de la victime qui a choisi la France.
OK. Il s'implique très près dans le dossier, là.
Impliquer la famille dans l'action de mettre une affiche sur la route, parce que ça leur donne l'impression de... Enfin, ça leur donne pas l'impression, ça les fait parler. Donc, ils font parler de leur victime. Puis toi, quand tu conduis ton char ou t'es pogné dans rien d'un truck, parce que ça avance pas dans le trafic, puis t'as juste le temps de voir cette affiche-là, puis de voir, elle est non bien belle, cette femme-là. 81, c'est pas réglé. Henri, ça me dit que... Ah, Henri! Hey, Henri! C'est ça, Thérèse Henri que j'ai décrit. Ah, ouais, ben, tu sais, t'as pensé à quelque chose, là. Fait que les gens, ils vont dire, ah, ouais, je pensais que c'était réglé, c'est même pas réglé, hein, c'est bien plat, ça. Puis ils vont en parler dans leur famille. Elle savait-tu, Alexandre, c'est même pas réglé. Crime, moi, elle m'avait dit que c'était... Ils peuvent m'appeler, là. Le numéro de téléphone est sur la fiche. Fait que c'est là-dessus que je mise. Puis, en faisant circuler Roxane, bien là, les gens voient que l'organisme existe. Puis, ils vont dire, ah, ben tiens, moi, j'ai de l'information à donner, justement, sur Fernand Champfou ou sur Linda Normandin, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas dans nos victimes. Ça arrive souvent. Hey, j'étais sur votre site web, puis mon frère, il n'est même pas sur votre site. Quand. J'ai vu ça sur une affiche que vous existiez. Ben, envoyez-moi une photo, puis dites-moi c'est qui votre frère. On va regarder qu'est-ce qu'on a, puis on va faire une page web expressément, puis on va y faire son affiche avec le temps, puis si on a des transporteurs qui veulent le transporter, ça va nous faire plaisir de le faire.
Merci. J'ai une question, Stéphane. Ouais. Ça coûte-tu quelque chose aux familles de faire affaire avec MDIC?
Pas tout.
OK.
Pas zéro plus de bord. Mais par contre, nos plus grands donateurs, c'est les familles. Ça me pince le cœur à chaque fois. Parce que les familles, c'est eux autres qui ne devraient pas payer.
C'est sûr.
C'est eux autres qui devraient se faire dire, regarde, tu sais, moi, j'offre une affiche à toutes les familles. Là. Je fais au moins l'affiche, qu'elle soit diffusée sur les réseaux sociaux. Puis, si on trouve un transporteur, je la fais imprimer une fois, tu sais, on la met sur un camion. C'est ça, c'est le mandat de qu'on s'est donné. Pour que tout le monde ait leur chance. Fait que quand on a des belles photos, qu'on réussit à avoir les phrases, ben, j'envoie ça à l'infographe, qu'on fait une affiche. J'en ai pratiquement au-dessus de 70 de fait pour le moment. Tu sais, on parle d'environ, avec le montage, c'est 125 piastres l'affiche que ça peut coûter, là, tu sais, pour le faire. Ben, c'est pour ça qu'on ramasse des dons, puis tout ça, puis qu'on veut faire ça. On veut absolument que les gens, qui sont disparus ou qui ont été assassinés, puis c'est pas résolu, ben, qu'il y ait leur affiche qui soit diffusable sur les réseaux sociaux, leur place sur le site web, et puis là, ben, veut pas, avec le numéro de téléphone qui est sur l'affiche, ben, quand j'ai commencé ça en 2018, j'étais pas enquêteur. Puis là, moi, je faisais des médias, étaient intéressés à ce que je faisais, tu vois, c'est une bonne idée, mais ils disaient, t'es qui, toi, pour obtenir de l'information? Là, je me suis dit, ouais. Moi, je me fais confiance, là, tu sais. Je savais que je faisais ça pour les bonnes raisons, mais c'est tout le monde qui le sait.
Mais non.
Pas rien. Là, j'expliquais qui j'étais, mais tu sais, avec difficulté, là, tu sais, c'était pas...
Tu voulais avoir de la crédibilité.
Mm-hmm. Ouais.
Ah oui! Là, en fait, c'est un peu ça l'élément déclenchant. C'est que là, tu as commencé à faire à poser des questions, à faire des enquêtes, à recevoir beaucoup d'informations. Là, tu as dit à un moment donné, il faut organiser ça, puis tu as comme structuré ça dans un organisme sans but lucratif. C'est ça?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de devenir enquêteur. Tu sais, je me suis dit, là, je peux pas être ça. Je peux pas juste continuer comme ça. Je vais devenir enquêteur privé. Puis je l'ai fait, là, assez rapidement, là, mais en travaillant, parce que je travaille toujours gagner ma vie, là. Il y a bien du monde qui pense que c'est FDQ qui me paye mon salaire, mais zéro, là, j'ai zéro, ça paye mon gaz, le kilométrage, il est pas encore payé, je suis pas capable de me rembourser des comptes de dépenses encore, là. Tu sais, j'ai mis une dette sur les familles, sur les projets, puis sur l'enquête, puis les recherches de cadavres, puis sur les déplacements de ce genre de type-là, que de me payer un salaire, là, je veux dire, ce serait ridicule, parce qu'il faudrait, avec le millage que je fais, il faudrait juste que j'aille des noms juste pour ce que je fais. Fait que je suis obligé de laisser dans le compte, puis un jour, quand on aurait des subventions, ben, j'en aurais une partie. Mais ben, pour le moment, là, c'est comme ça. Fait que je suis devenu enquêteur privé, puis là, ben, c'est sûr que ça a fait comme bien du monde, hein, ouais, on peut faire ça, puis là, il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont ajoutés à nous. Tu sais, j'ai commencé par 2, 3, 4, 5. Tu sais, puis là, on avait comme au début, il y avait peut-être juste 80 familles inscrites. On est rendu à 152 familles inscrites. Fait qu'on est rendu à 17 enquêteurs. On est 17 enquêteurs.
Wow.
On est pas capable encore. Fait qu'ils ont tous les dossiers avec lesquels ils s'occupent et ils sont tous en contact avec les familles. Donc, on va chercher l'information à la famille, par la famille. La famille va l'obtenir de la police. Donc, la police nous donne pas pour y aller par la famille. Là, après ça, on a des noms, on a des témoins, on a des suspects qu'on va pas voir tout de suite. Il y en a qu'on va voir, mais il y en a d'autres qu'on va pas voir tout de suite. Fait que là, on peut beaucoup travailler avec ça. Là. Fait que juste ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations, puis ça peut nous amener à faire des petites découvertes. Puis si ça s'est produit, là, à quelques reprises, je sais pas. On a Marie-Saint-Germain, qui était l'ancienne vice-présidente, qui a été suivie, qui a élucidé le cas de Patricia Ferguson, c'est sûr, avec l'aide de l'équipe, évidemment. Puis là, on a aussi Diane Manouin, qui a été découpée en plusieurs morceaux, mis dans une valise, lancée en bas des chutes Montmorency, retrouvée dans le fleuve quelques jours plus tard par des jeunes qui allaient à la pêche. C'est ça, là, on a réussi à reconduire un témoin à l'esprit, puis que ce témoin-là donne l'information qui a été corroborée par un autre. Le suspect a été rencontré, et puis, bon, malheureusement, le suspect de 83 ans s'est rendu en bas du 8e étage après la visite de la police. Ça a rendu quand même assez long, fait que l'ASQ a mentionné qu'on avait fort probablement fessé le clou sur la tête, fait que, tu sais, mais il n'y a pas eu de procès, donc on ne peut pas dire que c'est résolu.
Vous n'avez pas retrouvé des vêtements dernièrement?
Ouais, ça, c'est les deux autres. Juste pour revenir en arrière, Patricia Ferguson, le suspect, il y a quelqu'un qui est accusé là, pour homicide involontaire actuellement. Ça va être dans les tribunaux là, au début de l'année 2026. Fait que c'est quelque chose qui est à surveiller. Serge Audette, son nom, c'est le meurtrier de Patricia Ferguson. Et puis, il y a eu les deux autres trouvailles que je ne prends pas de crédit. Il faut faire attention. Tu sais, oui, j'ai participé là, de très près avec Exploring with a Mission, parce que quand ils sont arrivés au Québec de leur propre initiative, ils n'étaient pas capables d'obtenir de réponse de personne. Ils ont appelé la police, puis la police a dit « bon, on ne donne pas d'informations ». Là, ils ont dit « ben là, ça te prend de l'information sur Yvon Guévin, qui était de Pierreville ». Puis quand ils sont arrivés en ville, mais quand ils prononçaient juste le nom d'Yvon Guévin, ils disaient « Yvon Guévin ». Fait que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient, Yvon Guévin, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Fait que là, ils ont tapé « Yvon Guévin missing », et puis là, ils sont tombés sur le site de meurtre et disparition du Québec. Ils m'ont téléphoné. Là, j'ai dit « ben oui, je vais t'en donner de l'information, moi. Ça m'a fait bien plaisir de les aider ». Puis là, à partir du jour 1, qui se trouve être 2 jours avant la trouvaille de M. Guévin à Pierreville, ben, on est en communication tous les jours. Parce que là, je donnais tout ce que j'avais pour toutes les familles pour lesquelles ils venaient chercher. Ils sont venus chercher plusieurs personnes, plusieurs voitures, en espérant trouver des personnes dedans. Fait que c'est un total de 9 personnes à rechercher. Là, ils en ont trouvé 2. Là. Le score est énorme.
C'est bon. Okay, fait que puis vous avez la collaboration des autorités dans tout ça, là.
Ben, collaboration, c'est un grand mot. Autrement dit, on est tolérés. Ils acceptent qu'on collabore avec eux, mais je ne peux pas dire qu'ils collaborent avec nous.
Okay. C'est pas chummy-chummy, là. Vous ne faites pas une bonne équipe.
Ça dépend, c'est qui. Tu sais, moi, là, quand on a sorti les deux corps, M. Bolduc, ben, est-ce qu'il va téléphoner? Vous avez été occupé pas mal. La prochaine fois, si c'est possible de nous aviser d'avance, on pourrait se préparer. Puis j'ai trouvé ça très bien. Là. Il m'a téléphoné, il m'a pas donné de leçons. Là. Je veux dire, même quand, dans l'entrevue, je n'étais pas là pour bâcher la police. Vous savez à quel point je me suis fait poser la question, hey, la police n'a pas fait sa job. Là. Je les ai protégés beaucoup. Là. Puis c'est pas vrai que la police n'a pas fait sa job. Là. Quand quelqu'un disparaît, moi, si je disparais demain, ça ne veut pas dire que je suis dans l'eau. Là. Ils n'enverront pas des plongeurs partout au Québec. Je veux dire, on ne peut pas faire ça. Là. C'est serait ridicule. Tout le monde dirait, ben voyons. Fait que ce qu'on va faire, c'est, ben, M. Lewis est disparu avec sa voiture, numéro de plaque, devant. Vu la dernière fois, à l'endroit, ouvrez l'œil, si vous le voyez, téléphonez-nous. On va attendre 3-4 jours. On va mettre le policier la police va faire un petit peu leur enquête. On va espérer que le public va parler. C'est ça qui va se passer. Mais faut pas oublier qu'un adulte a le droit de disparaître. Donc, moi, si je décide de partir demain matin, puis de m'en aller sur l'île de Vancouver, à Tofino, dans un camping pendant 4 semaines, puis pas donner de nouvelles à personne, pendant que tout le monde s'inquiète, j'ai le droit. C'est stupide comme ça. Il y a une loi, par exemple, qui fait que pas le droit, mais tu vas avoir une méchante amende, par exemple, si tu fais déployer les services policiers. Parce que moi, si je veux disparaître une couple de jours, là, la moindre des choses, c'est de viser au moins une personne.
Mais oui.
Si ce n'est pas la famille que je vais viser, je vais aller voir la police de quartier. Mais regarde, ça se peut qu'on me dise que je suis disparu. Je chaque mon cas, je te carré tout le monde. Fait que cherchez-moi pas. Là, vous devriez, ça ne m'intéresse même pas, cherchez-moi pas. Bye. Partez, ils sont au courant, là. Il n'y aura pas jamais rien. Puis quand ça va venir à ça, ben, à un moment donné, la famille va dire, hey, on s'inquiète. Inquiète-toi pas, ça va bien. Il nous a avisé. Il veut juste pas vous dire où ce qu'il est. Pour respecter ça. C'est tout.
Good.
Ça serait déjà bien.
Écoute, il nous reste à peu près 3 minutes. On a fait quand même une bonne heure. Il y a deux petits sujets. On a parlé un petit peu du taux de réussite des enquêtes. J'aimerais ça que tu nous parles peut-être des réactions des gens quand ils ont des résultats d'avancement ou qui ont des réponses à leurs questions. C'est quoi la réaction?
Ben, la réaction, je te dirais, ben, c'est toujours bienvenu. Hein? C'est sûr que là, ça dépend de bon, quel type de réaction. Dans le fond, on va prendre l'exemple de Patricia Ferguson quand bon, on a mis la main au collet de la personne. Ça, puis que la famille allait exprimer ses sentiments face à ça, c'était tellement bien, j'ai toujours cru que ma mère m'avait abandonné. Tu sais, fait que c'est imaginez-vous, là, hein? Elle avait 9 mois là, quand que sa mère a disparu. Fait qu'elle, elle s'est faite juste. Elle ne vivait même pas de sa mère. Fait que ta mère a disparu. Elle m'a sûrement abandonné. Fait que, c'est ça que jusqu'à temps que quand elle a su, hey, elle est. C'était pas volontaire, à sa disparition. Puis là, on est rendu avec un meurtrier qui a avoué, là. Tu sais, parce que si on s'est accusé d'homicide involontaire, c'est parce qu'il a avoué quelque chose qu'on sait pas encore. Tu sais, nous autres, on l'a travaillé, on l'a cuisiné, on l'a amené à la police. Puis il a trop parlé à la police. Fait qu'il a fait, on a fait la job qu'il fallait, on l'a amené, la police a fait la job qu'il fallait de le faire parler, puis c'est parfait. Mais elle, ça a été comme un soulagement. Comme, aïe, ma mère va m'aimer, finalement, tu sais.
Oh.
Fait que c'est beau, là, tu sais. Fait que dans, oui. Ça, c'est même chose pour les corps qu'on a retrouvés dans les véhicules. Je veux dire, la famille d'Yvon, ben, se demandait pendant toutes ces années-là, ben, la famille de M. Guévin, je suis très, très familier avec les victimes. Hein. Puis d'ailleurs, quand je parle, mettons que je parle de Hélène Mona à sa sœur, Nicole, ben ça se peut que j'appelle Nicole Hélène. Je vois. Je suis terrible pour ça, mais je parle de mes. Il me pardonne pas. Mais j'ai comme tendance à. J'ai encore perdu mon fil d'idée. C'était quoi la...
Fait que c'est ça, c'est, en fait, c'est de savoir c'est quoi la réaction. Fait que la réaction est bonne des gens. Pour terminer, nous autres, notre but, c'est de faire connaître ta cause, puis d'avoir le côté humain qui est en arrière de ça, mais aussi de savoir comment les gens peuvent aider. Comment les gens qui voudraient aider le MDIQ pourraient le faire?
Ben écoutez, nous autres, notre plus grande difficulté, là, mais tout le monde s'en doute, là, c'est financier. Hein? On a zéro subvention. On a reçu quelques contributions discrétionnaires du ministère des Affaires autochtones. On en a reçu une du ministère de la Sécurité publique. Fait que déjà là, c'est quand même bien parce qu'ils connaissent notre existence, puis ils reconnaissent notre travail. Mais tu sais, on a reçu 2000 en trois paiements. Fait que ça peut vous donner une idée que 2000 $, là, je vais à Chandler, puis je reviens, là, puis deux voitures, puis il n'y a plus, on n'a même pas dormi nulle part. Non, c'est pas compliqué à ce niveau-là. Par contre, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que quand une famille me dit « Hey, tu peux-tu te déplacer pour aller à telle place ou tu peux-tu venir me rencontrer? » Puis que je suis obligé de les faire attendre parce que c'est pas le bon moment-là. Faudrait qu'on vende plus de commandites parce qu'on a quand même des gens, des compagnies qui nous donnent des commandites qu'on vend à notre prix. Donc, vous allez sur notre site web, dans contribuer dans le haut, là, puis vous allez voir notre magasin, nos commandites, et puis bon, vous allez... fait que c'est ça. Puis là, on a une dégustation de vin fromage sur le 6 septembre. Donc ça, c'est une façon qui pourrait grandement nous aider. Les commandites nous aident beaucoup parce que si vous prenez, on va prendre un saut en parachute qui vaut 250 $, ben, on le vend 125. Fait que on a 125 dans les poches. La personne saute en parachute pour 125 à moitié prix. Donc, tout le monde est content. Puis, on en vend quand même pas mal. Puis, c'est pas mal ça qui nous fait runner, là, grâce à Stéphanie, okay. Dans le groupe. Elle travaille fort à ce niveau-là. Bon, elle va chercher ce type d'argent-là. Il y a des dons des gens, des familles ou de quelques dons privés. Là, dernièrement, on va recevoir un don d'une compagnie qui a décidé de donner parce qu'on peut quand même faire des reçus de dons pour fin d'impôt, là. On est un organisme de bienfaisance. Donc, systématiquement, si vous faites un autre plus de 20 $, ben, on fait un reçu là, à la fin de l'année pour vos impôts. Et puis, c'est ça. Fait que c'est les meilleures façons de contribuer. Il y a le bénévolat aussi chez nous. Mais ça dépend toujours de votre localisation. Puis, où est-ce que l'activité se produit. Fait que malheureusement, là, on a comme 400 bénévoles à travers le Québec. Ben, quand on a une activité à Saint-Hubert, on a besoin de 3 bénévoles, mais ben, sur les 400, ben, il en reste 397 qui peuvent pas nous aider. Mais ben, le monde est dans la bonne place pour ça. Ben, sauf qu'au niveau des dons, c'est difficile. Je pense que les gens, ils n'osent pas trop donner pour cette cause-là, puis je trouve ça dommage.
Des dons, ça peut vous aider, puis du bénévolat.
C'est quoi votre objectif pour la dégustation vin fromage?
Ah, ben, en fait, c'est de 120 places. C'est ça, on a 120 places. Donc, d'atteindre ces 120. En vendant ça, on va faire assez d'argent pour au moins avoir la moitié de la cagnotte qu'on a besoin pour s'équiper comme Exploring with a Mission. Parce que ce qu'on veut faire quand on va revenir, parce que William McIntosh, il revient à me voir, en fait, vers le 1er avril, c'était 2026. Puis là, on va faire une stratégie pour toutes les gens, parce qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés, là, on en a trouvé deux, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas été listés, puis qu'on les a rajoutés. On va faire un plan de match, puis j'aimerais que MDQ soit équipé de la même façon qu'Exploring with a Mission, pour pouvoir les suivre, puis avoir des bénévoles qui apprennent avec du travail qui est fait par les Américains, par Bill, puis qu'on développe cette expertise-là de recherche. Parce que quand il va être reparti, Bill, après avoir passé quelques semaines au Québec, on n'aura pas fait tous les endroits au Québec, il va rester d'autres affaires. Fait qu'on va vouloir continuer, puis on va avoir l'équipement. Puis j'ai calculé que ça nous prendrait un bon 15 000 $ pour juste atteindre cet objectif-là. Fait que si on pouvait avoir 15 000 $ qui nous tombait du ciel, demain matin, on aurait un beau Zodiac avec le moteur en arrière, la batterie, les panneaux solaires, les trois sonores, puis tout qu'est-ce que ça prend pour travailler finalement avec la petite remorque. Fait que c'est ça qu'on voudrait. Ça, c'est pour le moment, c'est vraiment ça. Puis pouvoir continuer de se déplacer à la rencontre de ces familles-là. Parce que quand on va les rencontrer, c'est, c'est, C'est différent. C'est pas comme juste parler au téléphone ou
ben
se
non.
voir sur Zoom. C'est comme si hein, tu te déplaces pour venir me voir.
T'es un peu, il y a un rapport humain.
Ça. Ouais, on va prendre un café, puis je vais te conter d'autres choses, puis là, on va plus loin des souvenirs. Je suis pas un enquêteur, moi, qui dit, ouais, dis-moi ce que t'as vu, où t'étais, puis non, on commence pas à faire ça. Je suis friendly, je veux savoir ce que c'est dit, je veux savoir ce que c'est fait, je veux savoir ce que tu penses, je veux savoir, même si t'as un doute, je me baserai pas sur ton doute, je veux savoir ce que tu penses. Je veux savoir ce que ta mère, ton frère, ta soeur, tout ce beau monde-là pense, pour me faire une idée globale de comment peut-être penser comme la famille sans croire comme la famille? Parce qu'il faut pas s'éberner, là. La famille peut faire erreur. Moi aussi, je peux faire erreur. Tout le monde peut faire erreur. Il faut se fier sur ce qu'on constate. Et non
pas sur les faits, oui.
Exactement.
Ouais. Ben, écoute, c'est étourdissant. Tous nos invités, je pense qu'on va toute la gang, il va falloir faire un deuxième podcast. Parce qu'on a encore on a encore des questions, je suis convaincu de ça. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci de votre intérêt. Vous avez été très gentil. Puis bonne chance avec Manoïde.
Merci. Manoïde. Avant que tu nous quittes, Stéphane, moi, à chaque mois, je prends l'habitude de sortir une phrase issue de mon livre « Aime pour aimer ». J'en ai choisi une en ton honneur.
Ah oui?
Oui, ça va comme suit. C'est « Aime le guerrier d'amour en toi ». Il a combattu 1000 combats et il est toujours debout.
C'est très bien.
Ça va très bien.
Je l'aime, le guerrier en moi.
Oui, hein, j'imagine.
tu peux bien de l'aimer. Puis bravo à toute ton équipe.
Oui, oui, c'est très important, l'équipe.
Puis on va te voir le 6.
Ouais, oui, on va le 6.
Ah oui, c'est bien cool, ça.
Ouais, on va
le
voir le 6.
Merveilleux.
Cool.
Voilà. Vous avez vos billets, là, avant. Là.
Oui, certain. Merci. Merci, Stéphane.
Bye-bye.
Merci beaucoup, Stéphane.
Ouais.
Ciao.
Hey, un bel épisode encore une fois.
Oui, c'était... Oui. Moi, j'avoue que j'ai été ébranlé un petit peu, là, à quelques reprises. Là.
Ben oui, effectivement. Là-dessus, avant de terminer, je voudrais remercier notre commanditaire, H2H Stratégie.
Oui.
Je veux rappeler aussi à ceux qui nous suivent que ils peuvent voir le podcast sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, ainsi que sur Balado Québec. Et on vous prépare des épisodes, là, des prochains épisodes vraiment intéressants aussi. On a des invités de bouquet là, jusqu'au mois de janvier. Donc, plein de sujets. Si vous avez des idées, faites-nous en part via la page Facebook. Puis sinon, ben salutations à vous autres.
Merci.
José, je te donne le mot de la fin.
Ben, humanoïde, ça se termine maintenant.